Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série très importante concernant le fondement de la rédemption. Nous en sommes aujourd'hui à l'étude numéro 9 et le titre sera « Pourquoi Dieu donna-t-il la loi de Moïse ? » Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi de Moïse ? Quelle est donc l'utilité de la loi ? Galates, chapitre 3, verset 10. Pourquoi le Christ n'est-il pas venu au temps d'Abraham ? Le Nouveau Testament ne dit-il pas clairement que le salut dépend de la foi seule ? Et la foi n'était-elle pas déjà pleinement présente en Abraham ? Romains chapitre 4. Sur les divers plans de la connaissance de Dieu, ainsi que du caractère libre et gratuit de la grâce, de la justification, de la signification du sacrifice, de la résurrection et du Messie. Dans ce cas, cette période de 15 siècles que couvrit la loi n'était-elle pas un délai superflu, inutile, en fait une rétrogression ? En Abraham, on peut dire vie de foi intérieure directe. Il y avait donc en Abraham une vie de foi profonde et directe. Et dans la loi, il y a des formes extérieures et médiatrices importantes. La simplicité confiante et sublime, ici complexité difficile à saisir, et là la prédominance de la parole et de la promesse. Ici encore, il y a priorité des exigences et des symboles. Le simple n'est-il pas plus noble que le complexe ? Et la parole plus directe que le symbole. La promesse est plus féconde que le commandement, et ce qui est intérieur plus noble que ce qui n'est que forme. Pourtant, voyez-vous, c'est avec une solennelle majesté que Dieu a donné la loi, accompagnant cette révélation de tonnerre et d'éclair, d'un son de trompette et d'un tremblement de terre. Consultez Exode chapitre 19, versets 16 à 19, et Hébreux chapitre 12, versets 18 et 19. Et il souffrit que l'humanité languisse dans les ténèbres de la mort et dans une attente d'un millénaire pour la venue du Rédempteur. On peut dire d'un millénaire et beaucoup plus. Oui, dans l'attente d'un millénaire et pour la venue du Rédempteur. Ésaïe, chapitre 9, versets 1 et 2, ajoutez le chapitre 60, de versets 1 à 3, et Saint Luc, chapitre 1, versets 78 et 79. Il doit y avoir à cela de sérieuses raisons. Quelles sont-elles donc ? La réponse de l'Écriture sainte réside dans la signification de la loi qui est principalement on peut dire principalement, elle est l'accentuation de l'attente du Rédempteur. Et cela comme fruit de la révélation du péché de l'homme. La loi est ainsi le tuteur qui conduit au Christ, le sauveur des pécheurs. Galates chapitre 3, verset 19 et le verset 24, ainsi que Romains chapitre 3, verset 20 et le chapitre 7, verset 7. Afin de remplir cette tâche spécifique, elle occupe une place particulière en relation avec le passé, ainsi qu'avec le futur et le présent. Elle est à la fois addition, insertion et instruction. Premièrement, nous avons la loi en tant qu'addition. La loi n'a en aucun sens pris la place de l'alliance avec Abraham. Elle l'a complétée et elle s'est placée à ses côtés. Elle a été ajoutée, Galates chapitre 3, verset 19, ainsi que Romains chapitre 5, verset 20. Survenue 430 ans plus tard, elle ne pouvait annuler une disposition confirmée longtemps auparavant. Galates chapitre 3, verset 15 à 17. C'est pour cela que malgré toute sa signification, la loi de Moïse ne peut acquérir un sens réellement fondamental pour l'histoire d'Israël. Seul son fondamental, les promesses de l'Alliance. Et c'est pourquoi saint Paul, dans sa doctrine de la justification, remonte non pas à Moïse, mais à Abraham, Romains chapitre 4 et Galates chapitre 3, versets 9 et 14. De même que l'Épître aux Hébreux trouve dans la période de la loi toute une série de héros de la foi, notez Hébreux chapitre 11, cette addition était néanmoins nécessaire. Oui, malgré toute la grandeur et toute la profondeur de l'alliance abrahamique, l'accent n'y était pas mis avec assez de force sur le péché, car là était sa principale imperfection, la condition de l'homme perdu et son incapacité à se racheter par ses propres moyens n'y était pas soulignée avec l'importance voulue. Or, percevoir et réaliser cela est sans aucun doute la plus importante des expériences requises en vue d'une connaissance expérimentale de Golgotha. Il fallait donc que cette prise de conscience soit complétée. Telle était la fonction de la loi. Dès lors, l'entière révélation pré-chrétienne du salut se divise en deux sections principales. L'alliance de la promesse et l'alliance de la loi. Ce qui est positif vient à l'avant-plan dans la première, tandis que dans la seconde, c'est ce qui est négatif qui se détache en premier plan. Après Abraham, c'est la bénédiction. Galates chapitre 3, versets 8 et 9. Avec Moïse, c'est la malédiction. Galates chapitre 3, verset 10. Avec Abraham, c'est la vie. Romains 4, verset 17 à 25, ainsi que Hébreux chapitre 11, verset 19. Avec Moïse, par contre, c'est la mort. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, et Romains, chapitre 7, verset 9 et 10. L'alliance mosaïque atteint son point culminant dans la crucifixion. Galates, chapitre 2, verset 19 et 20, ainsi que le chapitre 3, verset 13. L'alliance abrahamique dans la résurrection. Hébreux chapitre 11, verset 19, et Romains 4, verset 17, verset 19, et les versets 23 et 25. Donc, les deux s'appartiennent cependant. Le pécheur doit être racheté, et dans ce but, il y a renouvellement et nouvelle naissance qui sont nécessaires. Je répète, le pécheur doit être racheté. Et dans ce but, le renouvellement et la nouvelle naissance sont absolument nécessaires. La nouvelle naissance a pour corollaire indispensable et pour ainsi dire simultané la conversion de l'homme. Celle-ci a un double aspect. C'est à la fois se détourner et se tourner vers. C'est-à-dire, c'est un non à soi-même et un oui à Dieu. Je répète, c'est un non à soi-même et un oui à Dieu. Ces deux aspects, le Nouveau Testament les nomme repentance et foi. Ici seulement nous apparaît la vraie signification des histoires de l'Ancien Testament. Tout au long des siècles, Dieu a prononcé le mot foi dans l'histoire du salut. Ce mot est la signification de l'alliance avec Abraham. 2 millénaires furent donc nécessaires à cette éducation dans la foi. Tout au long des siècles, Dieu a prononcé le mot repentance dans l'histoire du salut. C'est là la signification de la loi de Moïse. 1500 ans s'écoulèrent comme éducation dans la repentance. Repentez-vous et croyez à l'Évangile, nous est-il dit dans Saint Marc, chapitre 1, verset 15. Par cette affirmation, le Christ joignait les deux dans une unité rédemptrice. C'est donc là la portée néo-testamentaire de l'Ancien Testament. Deuxièmement, nous avons la loi en tant qu'insertion. Elle a été ajoutée jusqu'à ce que vienne la postérité à laquelle se réfère la promesse. Galates, chapitre 3, verset 19. La loi, dans sa forme mosaïque, est temporaire et transitoire, et elle n'est en relation avec la postérité que dans une simple relation préparatoire. En la postérité et son but, à l'apparition de l'objet de sa raison d'être, elle disparaîtra en ce qui concerne le niveau lévitique et spirituel de l'Ancien Testament. Romains chapitre 10, verset 4. C'est pour cela que même au temps de l'Alliance, plutôt l'Ancienne Alliance, Jérémie pouvait déjà parler de la Nouvelle Alliance à venir. Et là, notez Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, et David pouvait, dans Actes chapitre 2, verset 30, prévoir une sacrificature éternelle du Messie. Il est dit, tu es prêtre en éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 110, verset 4. David savait déjà que celui-ci, son Seigneur, psaume 110, verset 1, serait en même temps son fils. Saint Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 45, et 1 Chronique, chapitre 17. L'Ancien Testament, à travers le psalmiste, affirmait donc déjà, en la personne du Messie, un transfert du sacerdoce de la tribu de Lévi à celle de Juda et en même temps un changement de sacerdoce en général. Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 17. Et comme de plus, le sacerdoce est le fondement de tout le système de la loi et que celle-ci forme une unité indivisible. Jacques chapitre 2, verset 10. Le changement de sacrificature entraîne nécessairement un changement de loi. Hébreux chapitre 7, verset 12. Et c'est pourquoi l'Ancien Testament, par la bouche de David, le chante aussi bien que par celle de Jérémie le prophète, affirmait déjà que la loi est une insertion temporaire, tant il est vrai que telle est en effet son optique. Et troisièmement, nous avons la loi en tant qu'instruction. Dans le cadre de sa propre période de la loi et à la fois clôture, bridge, règle, barrière et miroir, je répète, dans le cadre de sa propre période, la loi, elle est à la fois, il faut bien le dire, une clôture, une bride, une règle, une barrière et un miroir. C'est bien cela. Dans son aspect extérieur, elle est une clôture qui sépare Israël des nations du monde. Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 15. Elle fut donnée à Israël seul et non pas à tout homme. Il fait connaître sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et là, vous avez le psaume 147, versets 19 et 20. Donc, entre Israël et lui, l'Éternel a donné pour signe le sabbat. Exode, chapitre 31, verset 13, ainsi encore les versets 16 et 17. Ajoutez Ézéchiel, chapitre 20, verset 12 et le verset 20. Quant aux nations, elles sont sans loi. Romains chapitre 2, verset 14. Cela seul réfute déjà tout effort d'introduire la loi dans l'évangile de grâce offert aux nations. La loi mosaïque, avec ses prescriptions sacerdotales, sa célébration judaïque du sabbat, ses formes typiques d'adoration, ses délais, on peut dire, vestimentaires, il y avait là des détails vestimentaires, et sans oublier son encens. Tout cela ne fut jamais donné aux nations païennes, c'est vrai. Même pas aux nations chrétiennes, mais uniquement à Israël. Cependant, voyez-vous, Israël et sa loi furent donnés pour être une leçon de choses présentées en un cycle grandiose, on peut dire un style grandiose, sur la scène de l'histoire du monde. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, lisible pour tous les peuples, et cela de tous les siècles. Donc la loi est la bride avec laquelle Yahvé, d'en haut, dirige et gouverne son peuple Israël. C'est la règle d'une conduite droite. C'est la barrière qui, en bas, dans notre cadre immédiat, doit freiner le développement du péché. Galates chapitre 2, verset 15, et la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 3. Du dedans, c'est-à-dire de par son caractère interne, c'est aussi un miroir. Jacques, chapitre 1, verset 23 et 25. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains, chapitre 3, verset 20. C'est là son objet et sa tâche essentielle, d'où l'accent tout spécial mis sur la sainteté du Seigneur. En sa qualité de Dieu saint, il est le Dieu exalté, inapprochable, jaloux, parfait et céleste, donc toutes des qualités fondamentales de sa sainteté mises en relief par l'Ancien Testament. Voici les 6 sortes de sainteté. Premièrement, la sainteté de Dieu manifestée par sa majesté dans l'âge patriarcal surtout. Deuxième et troisièmement, la sainteté de Dieu manifestée dans son inaccessibilité et sa jalousie spécialement dans l'âge mosaïque. Exode, chapitre 19, versets 12 et 13, ainsi que les versets 20 et 21. Vous pouvez ajouter Exode, chapitre 20, verset 5, et Josué, chapitre 24, verset 19. Quatrièmement, nous avons la sainteté de Dieu mise en relief par sa perfection éthique et morale, en particulier dans les écrits des prophètes. Ésaïe contient 29 fois l'expression le Saint d'Israël. Incroyable, mais vrai. Donc, je répète, Ésaïe contient bel et bien 29 fois l'expression « le Saint d'Israël ». Vous pouvez vérifier Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Cinquièmement, la sainteté de Dieu rendue évidente par son caractère céleste, surtout depuis la captivité à Babylone. Il y a donc là, on dit, c'est le Dieu des cieux. Voir Néhémie, chapitre 2, verset 20. C'est le Dieu des cieux. Le Nouveau Testament, enfin, couronne toute cette mise en lumière de, sixièmement, la sainteté de Dieu. Et cela en ce qu'il révèle en Christ son amour incommensurable. Saint Jean, chapitre 17, verset 6, et les versets 25 et 26. Il y a ainsi, dans l'histoire du salut, une révélation historique continue et progressive de la sainte de Dieu dans des aspects sans cesse nouvelles. Mais par ce travail au-dedans, la loi montre les choses par avance, éveillant donc chez le pécheur le besoin d'une rédemption. Romains, chapitre 7, verset 24. Par là, elle devient un pédagogue pour nous conduire à qui ? À Christ. Galates, chapitre 3, verset 24. La loi est ainsi un don du Dieu rédempteur, tandis que sous le rapport de la sanctification individuelle, la grâce exclut la loi mosaïque, elle inclut pourtant dans le développement général du salut. Elle l'inclut et vous pouvez être sûr d'une façon véritable. Tout d'abord, la loi, c'est le chemin de la mort, pour commencer. Il y aura le chemin de la vie un peu plus tard. Donc, la lettre, elle tue, nous est-il dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La loi étant un organisme et donc une unité indivisible, quelqu'un respecterait-il toute la loi ? Or, s'il pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Jacques, chapitre 2, verset 10, et Galates, chapitre 3, verset 10. Toute distinction entre la loi morale et la loi cérémonielle est fausse, et cela en ce qu'elle suscite l'impression qu'il y aurait deux lois, dont l'une cérémonielle serait accomplie par l'œuvre du Christ, tandis que l'autre ne le serait pas. La loi, en sa qualité d'organisme, se compose de membres qu'il est possible de distinguer. Dans cette optique, on peut y voir trois groupes d'ordonnances, les devoirs moraux, les règles de l'adoration et les règles sociales. Les deux premières ont une signification spirituelle spéciale dans l'histoire du salut. La loi produit la connaissance. Romains, chapitre 3, verset 20, et le chapitre 7, verset 7. Premièrement, la connaissance du péché, qui est la transgression et la rébellion, et par lequel le but est manqué. Deuxièmement, la connaissance de soi. Le pécheur reconnaissant son péché et son impuissance, ainsi que sa situation de perdu. Donc, premièrement, nous avons la connaissance du péché. Eh bien, cette connaissance progresse par étapes. Le péché, c'est d'abord de manquer le but. Le mot employé dans le Nouveau Testament pour péché est le grec hamartia, qui originellement signifie manquer les bornes ou les marques. Homère l'emploie environ 100 fois dans ce sens. Par exemple, pour parler d'un guerrier qui, de sa lance, manquait son ennemi. Jacques, chapitre 20, verset 16, dans les Septante, dans la version des Septante. C'est plus tard seulement, c'est-à-dire depuis Aristote, en 350 avant Christ, que ce terme a été transféré au domaine spirituel ou moral. Dans le sens absolu, le péché affecte Dieu seul. Contre toi seul, j'ai péché, nous dit David dans son psaume 51, verset 6. Mais les conséquences sont étendues. Le pécheur est aveuglé, Éphésiens chapitre 4, versets 18 et 19. Sa conscience est trompeuse, 1 Timothée chapitre 1, verset 13, et Actes chapitre 23, verset 1, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il ne peut plus percevoir l'idéal divin. Cet idéal doit lui être rendu évident, et cela d'une manière claire, par une révélation. C'est là le rôle de la loi. Sur la scène de l'histoire du monde, elle a été donnée comme un exemple, un modèle et une proclamation de la volonté divine pour la conduite morale de l'homme, exception faite de certaines concessions consenties par Dieu à cause de la dureté du cœur de l'homme. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 8. On devrait répéter cela. Sur la scène de l'histoire du monde, elle a été donnée comme un exemple, comme un modèle et une proclamation de la volonté divine pour la conduite morale de l'homme, exception faite de certaines concessions consenties par Dieu à cause de la dureté de notre cœur, du cœur de l'homme. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 8. Mais le péché est plus qu'ignorance, c'est beaucoup plus que cela. Actes, chapitre 17, verset 30. C'est, on peut bien dire, même plus qu'une erreur. Hébreux chapitre 9, verset 7. c'est carrément la défaite. Romains 11, verset 12. C'est la chute. Aussi doit-il être démasqué totalement et sans ménagement. Le péché, c'est la désobéissance et la transgression. C'est l'illégalité. C'est le désordre. C'est la licence. Romains chapitre 5, verset 19. Et notez Hébreux, chapitre 2, verset 2, ainsi que la première épître de Jean, chapitre 3, verset 6. Pour révéler ce caractère du péché, la loi doit non seulement décrire l'idéal, mais encore le prescrire, l'ordonner même et l'exiger de l'homme. Je répète, pour révéler ce caractère du péché, la loi doit vraiment, elle doit non seulement décrire l'idéal, mais elle doit décrire le prescrire tout ça. Elle doit carrément prescrire le péché, l'ordonner et l'exiger de l'homme qu'il l'abandonne. Alors seulement elle devient réellement une loi. Par là, le caractère du péché est fortement aggravé. Là où il n'y a pas de frontière, on ne peut vraiment parler de violation de territoire. Où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Romains, chapitre 4, verset 15. Où cette ligne existe, il y a transgression pour toute non-observance. Il y avait bien avant Moïse, de temps en temps, des ordonnances et des transgressions. Romains, chapitre 5, verset 14. Chapitre 18. Non, je me trompe. Notez Romains chapitre 5, verset 14 et les versets 18 y compris. Le verset 18 y compris. Ensuite, notez 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Mais, chers amis, c'est seulement depuis Moïse qu'existe l'institution systématique et pédagogique de la loi, et ayant pour conséquence nécessaire la connaissance du péché et de la transgression, donc la connaissance qui, on peut dire, qui œuvre à travers les siècles, et cela d'une manière ininterrompue. On peut dire ininterrompu en mots et en symboles. Et là, notez les versets tels que Exode chapitre 20 et Hébreux chapitre 10 verset 3 et le chapitre 9 verset 7. Donc, ainsi, la loi, elle a moins pour objet l'existence du péché que la possibilité de l'imputation du péché. Là où il n'y a point de loi, le péché n'est point imputé, évidemment. Romains chapitre 5 verset 13. La loi ne fait pas le péché. Non, non, non. Ça c'est certain. Mais elle fait du péché une transgression. C'est très important de comprendre cela. Ou si je le répète, la loi, elle seule, ne fait pas le péché. Mais elle fait du péché une transgression. Et par là, toute faiblesse dans la condamnation du péché devient donc impossible. La loi produit la colère. Romains chapitre 4, verset 15. Le conflit devient rapidement beaucoup plus aigu et le péché se trouve démasqué en sa qualité de la rébellion. La seule existence de la loi provoque le mal et le pousse à se démasquer selon sa véritable essence. La prohibition ne sert que à enflammer. Romains chapitre 7, verset 8. Le péché saisit l'occasion. Romains 7, verset 8. Et se réveille. Romains 7, verset 9. Provoquant ainsi la convoitise. Et pour terminer, l'acte de commettre le péché. Romains chapitre 7, verset 8. C'est donc ainsi que le péché s'exprime dans les péchés. Voyez-vous ? Romains chapitre 7, verset 5. Et que la loi, elle, devient la puissance du péché qui pousse le mal du dedans qui se trouve en nous vers le dehors. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. Le péché en cela est semblable au fer brûlant, mais non encore porté au rouge. Au début, il brûle, lentement mais sûrement, sans être remarqué. Mais si quelques eaux vient l'éclabousser. Il siffle et il se révolte. La loi a de même pour résultat un accroissement du péché. En cela, le péché vient précisément à l'aide de la loi en lui fournissant une possibilité accrue de poursuivre son œuvre de dénonciation ou manifestation du péché. Ainsi, plus le péché pèche contre la loi, plus il pèche involontairement au service de la loi contre lui-même. La loi fait tourner toute manifestation du mal au service du bien, contraignant Satan à travailler contre lui-même. Si l'on nous permet de personnifier le péché, nous dirons qu'il n'a pas voulu ce service involontaire. Son dessein était de faire de la loi divine un mauvais usage en l'employant comme une occasion, Romains chapitre 7, versets 8 et 9, et un moyen d'entraîner l'humanité dans une misère encore plus grande. Ce n'est pas seulement la faiblesse humaine, mais surtout le commandement donné en vue de la vie qui se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me conduisit par le commandement et par lui me fit ainsi mourir. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Je répète, ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? C'est une question sérieuse. Eh bien, nous répondrons loin de là. Mais c'est au contraire le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Romains chapitre 7, versets 10 à 13. Cela a l'air difficile à comprendre à premier abord. Mais en effet, c'est le péché et cela afin qu'il se manifeste vraiment comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Romains 7, versets 10 à 13, cela vaut la peine de le méditer. Cela signifie que le péché change ce don de vie de Dieu en une arme meurtrière. C'est le bâton de commandement du Très-Haut en un poignard. C'est le collier même qui devait me rendre la vue en poison. On peut bien le dire. Avec ce qui était saint, le péché a voulu tuer l'humanité. Et c'est ici pourtant que la souveraineté de Dieu apparaît d'une manière spécialement victorieuse. Maintenant, la nature du péché est réellement démasquée pour la première fois. Il est une rébellion contre Dieu. Il est une rébellion contre le Très-Haut, une révolte dans le domaine de l'esprit et dans l'intention, dans l'usurpation du trône de la souveraineté mondiale de Dieu. Dieu a permis tout cela afin que le péché soit rendu manifeste et que soit dénoncé non seulement sa nature, mais encore ce qu'il a de condamnable au plus haut degré. Romains chapitre 7, verset 13. Le bien employait le mal à son service et la patience de Dieu avait pour fruit une condamnation expresse du péché. Et deuxièmement, nous avons pour le pécheur la connaissance de soi. En révélant la gravité du péché, la loi mettait en lumière la culpabilité du pécheur. Le péché n'est pas seulement un crime, mais son crime. L'acte et l'auteur sont inséparables. C'est à travers cette vérité que la loi porte un message personnel. Tout d'abord, primo, l'iniquité du pécheur est révélée et par la perception de sa culpabilité, le pécheur voit s'évanouir sa joie de vivre. En ce que la loi a considérablement accru la responsabilité du coupable, elle l'a placé sous la malédiction. Deutéronome chapitre 27, verset 26 et Galates chapitre 3, verset 10. La loi produit la colère. Romains 4, verset 15. Pour le pécheur, vivre n'a plus la même signification de plénitude. Étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché reprit vie et moi, je mourus. Romains chapitre 7, verset 9 à 10. Il me reste maintenant, pour l'âme et l'esprit, qu'un désastreux pressentiment et une attente terrible du juste jugement. La lettre, la loi, elle a tué. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Et bien que sainte dans son caractère, juste dans ses sentences et salutaire dans ses desseins, Romains chapitre 7, verset 12, elle s'est cependant montrée la servante, oui, la servante de la mort et du jugement. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 et 9. Bien que n'en étant point la cause, elle a rendu effective la mort du pécheur. Secondo, nous avons l'impuissance du pécheur. En l'homme, c'est-à-dire en son meilleur ego, l'entendement, Romains 7, verset 25, peut s'éveiller la volonté et l'intention de faire le bien. Romains, chapitre 7, verset 18. Il lutte donc contre le mal, donne joyeusement son assentiment à la loi. Romains 7, verset 7. Non, Romains 7, verset 16. Je répète, donc, pour que ce soit bien compris, il lutte contre le mal et donne ainsi joyeusement son assentiment à la loi. Romains chapitre 7 et verset 16. Et vraiment, en ce qui concerne l'homme intérieur, eh bien, il trouve son plaisir dans les commandements de Dieu. Gloire à Dieu. Romains 7, verset 22. Et dans ce conflit, la victoire apparaît aisément. Ce qui est bon semble à portée de la main. Romains 7, verset 18. Donc, c'est pourtant le résultat qui demeure une perpétuelle défaite. Et là, notez Romains, chapitre 7, versets 15 et 16. À la fin, l'homme se comprend plus du tout lui-même. Il dit, je ne sais plus ce que je fais. Sa propre conduite lui est incompréhensible. Romains chapitre 7, verset 15. Il saisit qu'il ne détermine pas lui-même ses actes, mais que c'est le péché qui habite en lui qui le provoque. Il n'est pas même le maître de sa propre demeure. Il ne l'est plus. Romains, chapitre 7, versets 17 et 20. Et il se trouve intérieurement déchiré, faisant ce qu'il ne veut pas et ne faisant pas ce qu'il veut faire. Romains, chapitre 7, versets 15 à 16. Il est donc incapable d'aucun bien, selon Romains chapitre 7, verset 18, et ajouté Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 10. On peut dire qu'il est vendu au péché, Romains 7, verset 14. On peut aussi dire qu'il est esclave du péché, qui est sa loi. Dans la lutte pour l'âme de l'homme, pour l'âme et l'esprit de l'homme, cette forteresse, cette âme et esprit est sans cesse tiraillée entre ces deux royaumes spirituels, la loi de Dieu d'une part et la loi du péché d'autre part. Mais c'est la loi dans les membres, c'est la division avancée des armées de la loi du péché. Cette loi du péché dans la bataille de la personnalité qui toujours et toujours obtient la victoire sur la loi de l'entendement. C'est là la division des armées de la loi de Dieu. L'âme est toujours conquise par le péché. Je dirais l'âme, notre esprit, est toujours conquis par le péché tôt ou tard. Romains chapitre 7, verset 23. Et cela survient comme le résultat d'une telle pression que cette victoire elle-même doit être décrite comme une loi. Romains chapitre 7, verset 21. La loi de Moïse ne peut y être apparemment d'aucune aide, Romains 8, verset 3, mais elle peut, tel un miroir, refléter le chaos en sorte que naisse en l'homme le sentiment de son état de pécheur perdu. C'est ça, Tierso, il est un pécheur ou il est devenu un pécheur perdu. Espérant, il espère, heureusement. Désespérant, il espère quand même. Tout au-dedans, le pousse donc, heureusement, à la honte. Il regarde au dehors et au-dessus de lui et il s'écrie « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» On ajoutera « de cette mort de péché ». Romains chapitre 7, verset 24. Or, c'est là précisément ce que la loi voulait obtenir, la prise de conscience de son besoin de rédempteur, en même temps que celle, il faut bien le dire, de la sainteté et de la divinité de ce sauveur. Avec la venue de ce rédempteur, la loi peut elle-même disparaître. Christ, comme but final, comme but de la loi, est en même temps sa fin. Romains, chapitre 10, verset 4. Et c'est ainsi que de l'objet vétérotestamentaire de la loi sortit ensuite la liberté néo-testamentaire, Romains chapitre 7 et Galates chapitre 5. Le redoutable chemin de la mort par laquelle la loi a conduit le pécheur était en même temps en Christ une mort du pécheur par rapport à la loi. Par la loi, je suis mort à la loi. Galates chapitre 2, verset 19. Je répète, par la loi, je suis mort à la loi. Galates 2, verset 19. Et ajoutez Romains chapitre 7, verset 1 à 6. Et Colossiens chapitre 2, verset 20 et 21. Pour terminer, la loi a conduit le pécheur toujours plus bas, jusqu'au désespoir, jusqu'au sentiment de la mort, mais c'est précisément par là même qu'elle le conduisait enfin vers le haut, enfin de lui permettre de saisir la vie. Tel était le chemin de cette douleur religieuse qui produit le salut. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Après être descendu dans l'enfer de la connaissance de soi, une céleste ascension peut commencer par la connaissance du salut et du Christ. Rendre un témoignage plus exact de lui. Tel était donc le but des ordonnances relatives au service divin dans le temple et au sacerdoce. Amen. Et dans notre prochaine étude, l'étude numéro 10, nous verrons que la loi est le chemin de la vie. Chers amis, nous allons terminer maintenant, si vous le voulez bien, par la prière. Par la prière. Seigneur, en te bénissant de la protection divine que tu as daigné étendre sur nous, nous implorons la continuation de la faveur durant la nuit qui s'avance. Que heureux et plein de reconnaissance soit mon cœur, qu'il s'élève vers toi dans un sentiment sincère de prière et d'adoration. Mais pouvons-nous dire avec ton saint apôtre Paul, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, toutes choses ont-elles concouru pendant ce jour au bien éternel de nos âmes? La piété a-t-elle produit en nous le contentement d'esprit? En nous examinant devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, reconnaissons-nous en nous-mêmes ce fruit de ton Saint-Esprit? Avons-nous traversé les agitations, les émotions diverses de cette journée, les difficultés, les épreuves qu'elle a pu nous apporter avec un véritable contentement d'esprit, étant satisfait de l'état où nous nous trouvions? Et cependant, il faut que ces marques de notre amour pour toi et de notre soumission filiale à ta volonté paraissent aux yeux des hommes et réagissent véritablement sur nos dispositions les plus secrètes. Être content de l'état où l'on se trouve, c'est tout accepter avec promptitude et sans répugnance. C'est renoncer aux jouissances, aux biens que le Seigneur retire, sans murmurer et sans se débattre contre sa volonté. C'est recevoir avec gratitude et bonheur les bénédictions spirituelles, le sentiment de ta présence divine, la vie intérieure et la joie, et avec humilité, l'épreuve si douloureuse de l'aridité de l'âme, des tentations, du découragement, de l'indifférence pour les choses du ciel, n'abandonnant pas notre confiance et gardant la foi, posséder le contentement d'esprit, c'est beaucoup plus que de posséder toutes les richesses. La piété avec lui est un grand gain, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et quelle que soit notre situation sur cette terre, nos joies ou nos douleurs, nous ne devons pas oublier qu'une seule chose est nécessaire. Mais pour pouvoir aimer Dieu et le servir, il nous faut naître de nouveau en cherchant au pied de Jésus-Christ, unique sauveur de nos âmes, le pardon de la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, accomplis en nous cette œuvre de ta miséricorde. Nous t'en supplions pour l'amour de ce divin sauveur qui a versé son sang pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et Dieu voulant, nous aurons la suite de cette étude demain. À bientôt donc, mes chers amis. Au revoir.